Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix d'Indonésie en langue française. Chers auditeurs, auditrices, pendant une heure aujourd'hui, dimanche, nous vous présentons que le programme commencera par le journal, suivi le focus de la semaine. Et puis aujourd'hui dans l'histoire, la variété indonésienne. N'oubliez pas, nous avons la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel et suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission, la rubrique distraction, c'est-à-dire le courir, l'info et la musique. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Chers amis, écoutez maintenant le journal aujourd'hui. La communauté économique de l'ASEAN, CEA, qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016, a ouvert des possibilités pour les ressources humaines en Indonésie. Avant de travailler dans tout le pays de l'ASEAN, c'est ce qu'a affirmé le directeur du commerce, de l'investissement et de la coopération économique internationale de l'Agence nationale de la planification du développement, BAPNAS, Amalia Adiningar Widyasanti, récemment à Jakarta. Elle a dit qu'il y avait 8 professions qui ont été convenues dans l'accord de reconnaissance mutuelle de la CEA. Ces professions sont des ingénieurs, des architectes, des travailleurs du tourisme, les comptables, la dentiste, les arpenteurs, les médecins et les infirmières. Ainsi, Amalia a évalué que la formation et l'éducation étaient très importantes pour les travailleurs migrants indonésiens, avant qu'ils puissent rivaliser avec les travailleurs des autres pays. En effet, ces professions peuvent travailler à tous les pays de l'ASEAN après avoir obtenu la certification de la formation et de l'éducation. Le gouverneur de Jambi, Zumizola Zulkifli, encourage à faire le temple Muaro Jambi comme patrimoine culturel du monde. Zumizola Zulkifli a déclaré récemment à Jambi que faire devenir le temple Muaro Jambi comme patrimoine mondial était important comme Borobudur. Il a ajouté, l'équipe de recherche des artefacts va révéler l'histoire du temple Muaro Jambi et l'histoire culturelle de la province de Jambi et des palais humanistes locaux. Il a ajouté que ce plus grand temple en Asie du Sud-Est a fait des liens avec l'histoire dans la résidence de Kerinci et Geopark à Merangin, Jambi. Le gouvernement s'entend fixer les 9 étapes pour accélérer le développement de la région de l'Artoba, Sumatra du Nord, comme l'une des principales destinations touristiques de l'Indonésie et est même devenue Monaco Asie. Cela a été dit par le haut fonctionnaire de Sumatra du Nord, Eri Nuradi, à Medan le vendredi. Les 9 étapes stratégiques comprennent, entre autres, l'accélération du développement de l'accès de l'air par l'extension de la piste et le service de l'aéroport Sibisa, dans le district Ajibata, Toba Samosir ou Tobasa. La construction des installations de soutien d'hébergement dans la région de l'Artoba, la construction de l'autoroute de l'aéroport international de Kuala Namu à Parapat, le dragage et l'approfondissement du lac à Tanopongo, le nettoyage de la zone du lac Toba, l'approvisionnement de 500 hectares pour le tourisme écologique et la publication du décret présidentiel de l'agence de l'autorité du tourisme du lac Toba, ainsi que la densifier, la promotion complète avec l'histoire de la formation lac Toba. Les raisins dans ce district de la région du lac Toba doivent établir des synergies et intégrer les 9 étapes stratégiques. Le pavillon indonésien a reçu le meilleur prix d'exposition à la Bourse internationale du tourisme ou ITB Berlin. L'Allemagne en battant l'Inde et la Corée du Sud samedi soir, heure locale. Nous sommes fiers car le pavillon indonésien a décerné le prix de la meilleure exposition pour l'Asie, l'Australie et l'Océanie, a déclaré le fonctionnaire du ministère indonésien du tourisme, Nia Niscaya, à Antara, à Berlin. Le pavillon indonésien est classé comme stand le plus coloré en termes de conception et de ses programmes. La victoire du pavillon indonésien à l'ITB Berlin, selon le ministre indonésien du tourisme Arif Yahya, a complété toutes les missions de voyage de marketing pendant de février jusqu'à mars 2016 dans ce pays, à savoir Los Angeles, les États-Unis et Hong Kong. Victoria a gagné le prix. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, Taleb Rifaya, a félicité le ministre indonésien du tourisme Arif Yahya dans la promotion du tourisme indonésien dans l'arène mondiale. Taleb et Arif Yahya ont rencontré la Bourse internationale du tourisme ITB Berlin, l'Allemagne, le 11 mars, cité par le ministre du tourisme à Jakarta dimanche. À CNN International, je fais toujours en l'Indonésie comme un exemple de succès du tourisme, a déclaré Taleb. Il a également salué l'Indonésie qui est rapide, intelligent et agile de résoudre des attaques touristes sur le Jalan Tamrin, Jakarta le 14 janvier 2016. Taleb, lors de la réunion, a également invité Arif Yahya à parler au Forum mondial du tourisme, au siège de l'OMT, en Espagne, dans un proche avenir, et dans le Forum de l'OMT avec le gouvernement de la Chine, le 19 au 21 mai 2016, pour discuter le tourisme durable, le tourisme maritime et l'impact du développement du tourisme sur les devises d'un pays. Taleb et Arif ont également discuté de la réalisation de l'accord de l'OMT avec le ministère du Tourisme sur la coopération et l'observation dans les zones de destination en utilisant l'approche du développement du tourisme durable, accompagnée par l'Université nationale à Pangandaran avec une équipe de l'Institut Technologie Bandung, à Kulon Progo avec l'Université de Gajah Mada et à Mandalika avec l'Université de Mataram. Le dernier, le vice-président Yusuf Kala assistera au sommet sur la sécurité nucléaire à Washington DC, les États-Unis, le 1er avril 2016. Cela a été déclaré par le directeur général des affaires multilatérales du ministère des Affaires étrangères, Hassan Klepp, récemment à Jakarta. Le sommet est initié par les États-Unis comme un programme de 2 ans à partir de 2010 et l'Indonésie a participé depuis le début. Le sommet sur la sécurité nucléaire vise à discuter de la sûreté de l'utilisation de la matière active nucléaire, y compris lorsque cette matière est tombée dans les mains des responsables. Le sommet sera participé par 52 États. Le 4 sommet sur la sécurité nucléaire produira deux documents, à savoir le communiqué sur la fermeté de l'engagement des États membres dans la sécurité nucléaire et le plan de travail du sommet qui contient des mesures concrètes pour être effectuées par les organismes compétents, à savoir l'Organisation des Nations Unies, l'Agence internationale de l'énergie atomique et Interpol. Ces amis, c'était le journal aujourd'hui.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec une rubrique hebdomadaire, les infos de l'Indonésie. Ce soir, nous discutons sur l'éclipse solaire qui a eu lieu en Indonésie le mercredi dernier. Le mercredi dernier, des dizaines de milliers du peuple de Makassar, à partir de 6 heures temps d'Indonésie centrale, ont commencé à emballer le pavillon de la plage Losari pour assister au festival Batu Ratema Ribulang, qui signifie « Je suis déjà allé à la lune ». Ce festival religieux unique lors d'une éclipse solaire vise à rappeler que le peuple bugis Makassar avait longtemps rêvé qu'on peut aller à la lune. Ce rituel a lieu seulement pendant une éclipse solaire. Après avoir prié d'éclipse, le régent de Makassar, Mohamed Ramdan Pomanto, a dirigé le festival Batu Ratema Ribulang, qui compose de dévotion et de prier. À l'autre place, le gouvernement de la région Sigi, Sulawesi Central, a lancé le rituel traditionnel pendant l'éclipse solaire totale le mercredi dernier en impliquant les figures traditionnelles de Kulawi et Pakuli. Ce rituel est concentré devant la maison traditionnelle étant construite par le Bureau du tourisme et de l'économie créative de la région Sigi au village Pakuli. Le rituel, sous forme de danse par les femmes et les adolescents, était commencé quand l'éclipse solaire. Mohamed Nawir, coordinateur d'organisateur du rituel de l'éclipse solaire totale, a dit « Ce rituel contient des actions de grâce et de prière pour le salut, l'unité, l'entraide, prospère et heureuse vie. » Cette cérémonie rituelle traditionnelle a l'attention de milliers de personnes, y compris les visiteurs de divers pays du monde qui veulent voir l'éclipse solaire totale du village Pakuli, l'un des 4 points d'observation de l'éclipse solaire totale à Sigi. Le vice-président Yusuf Kalla a aussi assisté à l'éclipse solaire totale ensemble avec la communauté au champ du village Kotapulu, sous-district d'Olo, en région Sigi, le mercredi dernier. Il souhaite qu'il y ait de nouveaux découvertes scientifiques sur l'éclipse solaire totale. Le Centre de recherche biologique de l'Institut indonésien des sciences a étudié les effets de l'éclipse solaire totale qui a eu lieu dans plusieurs domaines en Indonésie, dans l'élevage des animaux au Centre scientifique Cibinong de l'Institut indonésien des sciences le 9 mars 2016. Les chercheurs ont observé des comportements anormaux qui surviennent chez les mammifères, les oiseaux, les reptiles et les insectes avant, pendant et après une éclipse solaire totale. Le porte-parole de l'Institut, Ruliana, a dit « L'observation et les recherches sont effectuées pour voir l'impact de l'éclipse solaire totale du comportement anormal des animaux ». L'Institut indonésien des sciences a envoyé 2 équipes pour enquêter sur le comportement anormal des animaux contre une éclipse solaire totale. La première équipe a fait des observations à Rolle Rindu, Palu, Sulawesi Sud. La deuxième équipe a observé dans l'élevage des animaux au Centre scientifique Cibinong de l'Institut indonésien des sciences. À Rolle Rindu, les observations étaient effectuées sur des animaux tels que les chauves-souris, les oiseaux, les reptiles et les insectes. Cependant, à la captivité Cibinong, on se concentre sur l'observation des reptiles, des mammifères et des oiseaux. Les chercheurs de l'Institut indonésien des sciences, de laboratoires et de terrains élevage de faune du Centre de recherche biologique de cet institut, Wartika Rosa Farida, a dit à Cibinong, l'éclipse solaire totale pourrait réellement changer le comportement de nombreux animaux, notamment les animaux qui d'habitude se déplacent au cours de la journée. Bien que l'éclipse solaire à Bogor ne couvre que 90%, généralement, certains animaux subissent des changements de comportement lors d'une éclipse, tels que les lémuriens et les écureuils, qui montrent une activité agressive quand le soleil est couvert. C'est similaire avec les oiseaux qui cherchent un abri lors d'une éclipse solaire. Selon Rosa, quand la lumière a disparu, les oiseaux se sentent l'atmosphère comme la nuit, de sorte qu'ils cessent leur activité, telle que gazouillis. Ce changement a provoqué l'instinct animal. Elle a ajouté, le soleil devient l'alarme du corps ou de l'horloge biologique pour l'animal de se déplacer. Les changements dans le comportement des animaux peuvent également être utilisés comme un signe de connaître d'autres événements naturels, comme les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, jusqu'à ce que le tsunami. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers amis, écoutons maintenant notre rubrique aujourd'hui dans l'histoire de l'édition 13 mars. Nous allons commencer le 13 mars 1938. Hitler réalise l'Encluche. Après la démission forcée du chancelier autrichien, Hitler donne l'ordre à ses troupes d'envahir l'Autriche au petit matin. Les Autrichiens acclament les soldats du Reich qui ne rencontrent aucune difficulté à prendre possession du pays. Le chancelier allemand défilera dans sa ville natale, Braunau am Inn. Il proclamera la réunification de l'Autriche et de l'Allemagne au nom de l'Encluse, le rattachement. Tenté dès 1934 mais avorté sous la menace de l'Italie, ce rapprochement entre les deux pays était interdit par les traités de Versailles et de Saint-Germain. Pourtant, les démocraties occidentales ne réagissent pas. Un référendum organisé par Hitler en Allemagne et en Autriche approuvera massivement cette annexion. L'Autriche nouveau pion sur le quai-quai nazi devient la marche de l'Est du Reich. On change le 13 mars 1988 l'ouverture du plus long tunnel sous-marin du monde. Le Japon inaugure un tunnel reliant l'île principale du pays, Honshu, à l'île du Nord, Hokkaido, d'une longueur de 53,8 km. Il s'agit de la plus grande voie de communication souterrain du monde. Le tunnel sur le Mans mesure, lui, 50,5 km. On termine le 13 mars 1954, la bataille de Dien Bien Phu a commencé. La bataille de Dien Bien Phu est une bataille entre les Français et le Vietnam. La bataille de Dien Bien Phu a commencé le 13 mars 1954 lorsque la guérilla vietnamienne entoure la force française dans un village près de la frontière avec le Laos-Vietnam. Vietnam libère la brasse d'artillerie en massif. La France a répondu avec l'ajout de forces aériennes, mais ils ont été triqués par le canon de DCA. La bataille de Dien Bien Phu durera jusqu'à 7 mai 1954. La bataille se terminera par la défaite de la France. Ses amis, c'était notre histoire d'aujourd'hui de l'édition 13 mars. À demain.
La mise au point de la semaine présente un sujet spécial dans la semaine.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec une rubrique hebdomadaire, la mise au point de la semaine, et en titre, l'Indonésie et la Malaisie établissent une coopération pour développer la frontière. L'Indonésie et la Malaisie va établir une coopération pour développer la frontière. On va se concentrer au développement de l'infrastructure pour que l'économie et le bien-être public à la frontière s'améliorent. Le ministre des Villages et du Développement des Régions Défavorisées et de la Transmigration, Marwan Jafar, a dit que le plan de coopération sera immédiatement réalisé. Le ministre Marwan Jafar a fait un entretien avec un nombre de ministères en Malaisie afin de montrer l'engagement du gouvernement d'Indonésie à développer les villages, les régions défavorisées et la transmigration. Selon Marwan, le village est la place pour le développement agricole et la sécurité alimentaire antérieure. Le secteur agricole doit être renforcé car il devient le soutien principal des villages en atteignant le but du village indépendant et villages ayant la sécurité alimentaire. Le renforcement du secteur agricole est souhaité d'être capable d'augmenter l'économie en région frontalière. La frontière ne doit pas être négligée, car la communauté là-bas défend la nation. C'est la raison qu'on doit faire attention au développement économique là-bas. Le ministre malais du Progrès de la Région extérieure, Ismail Sabri Yaakob, a dit « L'Indonésie et la Malaisie ont la différence en déterminant le chef du village. En Indonésie, le chef du village est déterminé par les élections des chefs du village. En Malaisie, c'est le ministère qui le choisit. Le ministère malais du Progrès de la Région extérieure supervise 16 000 villages. Le ministre malais de l'Agriculture et de l'Industrie, Ahmad Shabri Chik, est impressionné parce qu'en Indonésie, l'agriculture n'éradique pas seulement la pauvreté, mais aussi aide les paysans de développer les produits pour être exportés. Chers amis, c'était la mise au point de la semaine.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec une rubrique quotidienne, le magazine culturel. Ce soir, nous vous introduisons la beauté du paradis du parc marin des îles Padaido à Biak, Papua. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. Outre par l'intermédiaire de long cours, vous pouvez aussi nous capter par l'intermédiaire de live streaming à www.voi.co.id. Padaido vient de la langue locale qui signifie la beauté qui ne peut pas être divulgué, et selon une étude menée par le Réseau pour la conservation de la biodiversité, l'archipel Padaïdo est un endroit qui a la plus grande biodiversité des écosystèmes coralliens dans le monde. Ici, il y a 95 espèces de coraux et 155 espèces de poissons, telles que de divers types de requins et de poulpes récifs, ainsi que diverses autres richesses maritimes. L'archipel Padaïdo est un groupe d'îles de corail avec 30 îles dans l'océan Pacifique sur la côte orientale de l'île Biak. Padaïdo a la beauté du parc marin très belle qui invite les plongeurs locaux et de l'étranger comme amateurs du monde sous-marin à visiter cette belle île Padaïdo. Autrefois, ces îles nommées îles Schutter, dérivées du nom du chef de groupe de marins hollandais qui a d'abord découvert les îles en 1602, William Schutter. L'archipel Padaïdo, qui a une superficie de récifs coralliens d'environ 9252 hectares, selon certains plongeurs internationaux, est une région qui a des récifs de corail plus spectaculaires du monde. Si vous avez été à Biak et vous voulez visiter les îles Padaïdo, vous pouvez aller au port Tip Top à Biak et louer un bateau à moteur d'aller aux îles Padaïdo. Le voyage à travers la mer nécessite 3 heures. Sur le chemin, vous pouvez voir les bateaux de pêche traditionnels qui sont en train de faire la pêche et quelques dauphins apparaître sur la surface de l'eau. Lors d'une visite à Padaïdo, faites attention au temps de la marée. L'état de l'eau de mer qui rapidement recule peut être dangereux en raison des nombreux récifs qui sont à risque de danger pour le navire ou le bateau. Au moment de la visite sur les îles Padaïdo, vous devez également apporter suffisamment de nourriture pour voir la beauté qui est sous la mer, comme une grotte. Vous avez besoin de plonger à des profondeurs de 12 mètres. Outre la grotte, vous verrez aussi certains anciens naufrages de la carcasse, un avion de carcasse est aussi un autre matériel de guerre. Il est intéressant. C'est recommandé de plonger lorsque le temps est chaud, de sorte que la réflexion de la lumière du soleil peut éclairer jusqu'à une profondeur de 15 mètres, donc vous ne devez plus porter la lampe pour l'éclairage dans l'eau. Si vous voulez rester, vous pouvez rester près de l'île Padaïdo. L'auberge n'est pas une auberge de luxe, mais peut être utilisée comme un lieu de repos confortable. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain à la même heure et même fréquence avec un autre sujet plus intéressant sur notre pays, l'Indonésie. Merci de votre fidèle attention. À demain!
Couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Je suis de l'auditeur de Voix d'Indonésie. Nous vous présentons maintenant l'Indonésie en couleurs. Dans cette édition, nous vous présentons des informations sur les étudiants de l'Université Brawijaya qui utilisent l'eau de pluie pour répondre aux besoins de l'eau propre dans le bâtiment. Assurez-vous que vous restez toujours avec nous sur www.boi.co.id. L'eau devient une source de vie qui est très importante pour les hommes. Sans eau, les humains ne peuvent pas vivre. La demande d'eau par jour a été généralement obtenue à partir de la nappe phréatique et les rivières. Mais maintenant, face à beaucoup de gens qui utilisent l'eau du sol, l'eau souterraine est également de plus en plus réduite. Les rivières sont de plus en plus sales à cause de la contamination des déchets. Pourtant, le besoin d'eau propre est une priorité principale pour de nombreuses personnes. Voyant l'importance de l'eau propre et la difficulté à trouver l'eau potable, l'équipe de l'étudiant du programme de la créativité Karsa Cipta, qui se compose de 4 étudiants du département de génie civil de la faculté de génie de l'Université Brawijaya, à savoir Kolis Hapsari Pratiwi, Ika Widyastuti, Putri Agil Faradita et Ovi Ellen Arviananda, développe un modèle qui utilise l'eau de pluie comme un moyen de répondre aux besoins de la consommation d'eau dans les bâtiments. Le concept est inspiré du système de rain harvesting Changi Airport qui peut répondre aux besoins de l'eau de 28 ou 33%. Il applique ce modèle en utilisant les réservoirs, l'eau sous terre et l'eau provenant de deux sources, à savoir le toit et la surface du sol par le biais de pavages poreux. La différence entre le concept du système Rain Harvesting Changi Airport et le concept de l'équipe des étudiants de l'Université Brawijaya est l'emplacement de position de réservoir. Lorsque le réservoir de l'aéroport de Changi est placé dans une zone spéciale, l'équipe des étudiants de l'Université Brawijaya préfère placer le réservoir sous le bâtiment. Ce bâtiment vise à optimiser l'eau qui tombe du toit de l'immeuble, économiser l'utilisation des terres. Surtout, cela est une mesure de réduire l'utilisation des eaux souterraines qui peuvent causer une baisse dans le sol. Afin d'augmenter la quantité d'eau entrant dans le réservoir, l'équipe utilise le pavage en briques. D'après les résultats de l'étude de la recherche précédente, les pores de la brique peuvent absorber de l'eau environ 12,04% à 18,34% et les eaux sont recueillies sur le pipe résistant dessus. En outre, sur la couche de briques, il y a une couche de sable et de gravier qui vont filtrer les impuretés d'origine hydrique. La pipe de la cour du bâtiment a été faite spécifiquement avec des petits trous dans le haut. Basé sur l'analyse et les prototypes qui ont été réalisés à la planification de la demande en eau de l'immeuble de 5 étages de 300 mètres cubes par mois pour 120 personnes, le système est en mesure de répondre à 74% des besoins en eau des résidents des meubles. C'était l'Indonésie en couleur pour cette fois, avec le sujet des étudiants de l'université Brawijaya utilisent l'eau de pluie pour les besoins de l'eau propre dans le bâtiment. Nous vous reverrons dans la prochaine édition avec d'autres thèmes intéressants. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, ses amis. Comme chaque semaine, nous présentons la rubrique Courir et musique. L'équipe de l'émission française de la Voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé leur courir, les cartes postales, le rapport d'écoute et le message. Dans ce programme, nous allons saluer nos auditeurs et également présenter des chansons indonésiennes. Cette fois, nous avons déjà sélectionné des chansons de pop chantées par Baby Romeo. Il est un chanteur et compositeur des chansons indonésiennes, né à Jakarta le 6 septembre 1974. En 2012, il essaie de composer les chansons hits pour les chanteurs indonésiens. Ces chansons sont embayées dans son album intitulé Grand Hits de Baby Romeo. Un jeune chanteur talentueux, Afghan, a été invité à chanter sa chanson intitulée Dernière Fleur. Une diva indonésienne, Chris Dayanti, a devenu très populaire en raison d'une chanson composée par Baby intitulée Je t'aime. Dans cet album, Chris Dayanti a chanté une chanson intitulée « Toujours avec toi ». Ses amis, afin d'écouter la première chanson, je vais saluer les auditeurs. Louis Guerra, partenaire de Correo, numéro 856, zone postale 3001 à Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Ensuite, Giovanni Cerzi, via Sibari Messina Camaro Infiore, l'Italie. Maurice Mercier en France, précisément à 137 rue François Giraud, 69400 Villefranche-sur-Saône. Jean-Michel Aubier, 13 rue des Bilissés, 18340 Arcueil-la-France. Christian Guibadeau, rue Gaston Charbonnier, 06300 Nice-la-France. Bonjour mes amis, ça va? Merci d'écouter la voix. Restez toujours en contact avec nous. On écoutera la première chanson à propos de l'amour chantée par Baby Romeo.
cinta.
Merci d'écouter la voix d'Anonicie dans la rubrique Courir et musique. C'était la première chanson chantée par Bébé Roméo, intitulée À propos de l'amour. Je vais dire bonjour à Jean-Marie Monplot, 7 rue de Siam, 106-100 Lorient, France. Abdelila Boubsir, 05 rue La Rèche, Bouchentou, 22000 Sidi Bel Abs, Azeri. Merdine Mourad, BP 154 Bissetif, 18000 L'Arcerie. Varit Bouhmechal, rue de la Mosque, numéro 6, Parc de Fouras, Batna, 05000 Azeri. Comment ça va, mes amis? Merci d'écouter la voix d'Indonésie et j'espère que vous êtes toujours en bonne santé. Et merci de continuer à suivre nos programmes. On écoutera la deuxième chanson, Dernière fleur, chantée par Baby Romeo.
Kaulah yang pertama mencari cinta, tinggallah kenangan. pertama menjadi cinta tinggallah kenangan.
Merci d'être fidèle à la voix d'Indonesia Jakarta. C'était la chanson de Baby Romeo, Dernière Fleur. Bon, avant de terminer cette rubrique, voici les deux dernières chansons intitulées Rappeler et Mourir avec toi. À bientôt.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Banyak orang bilang jomblo itu gak enak, gak punya pasangan untuk malam mingguan. Tapi tak mengapa, ku punya banyak teman yang masih ngajak jalan. Oke, gak masalah. Oh, lepaskan semua beban dan pikiran karena waktu terus berjalan. Kesepian dan butuh perhatian, inginkan kehadiran sosok pacar impian. Tapi tak mengapa, tak usah dipaksakan, masih banyak hiburan. Oke, gak masalah. Oh, lepaskan semua beban dan pikiran karena waktu terus berjalan. Oh, nikmati semua. Saatnya bermalam mingguan dengan pacar impian. Oke, gak masalah. Oke, gak masalah. Oke, gak masalah.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Selamanya.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.